Vous écoutez RTL. RTL Soir,
on refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Et on refait le monde jusqu'à 20h. La très bonne nouvelle, c'est que Isabelle Saporta est à l'heure ce soir.
Waouh.
Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Alexandre Malafaye à vos côtés, le président de Sinopia. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Philippe Bailly, conseiller en communication avec nous ce vendredi. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Stéphane.
Et Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro, le quatrième polémiste de cette soirée. Bonsoir Yvan.
Bonsoir.
On va parler d'Emmanuel Macron, évidemment, puisque ça a démarré à 15h40 tout à l'heure, sa prise de parole au milieu des maires à Souillac. Et qui est toujours en cours. Hein. Il avait fait 7 heures, près de 7 heures de débat, je crois, mardi, lors de l'acte 1 de ce grand débat. C'est l'acte 2 actuellement. Donc, ça a été assez tendu à la mi-journée dans la région de Souillac. Il a eu quelques mots face à un habitant en disant « Je ne suis pas sourd, c'est pour ça que je vais au contact ». Au total, il devrait effectuer une dizaine de déplacements dans les régions d'ici le 15 mars. Pendant ce temps-là, les Gilets jaunes se préparent pour la 10e fois. On aura un 10e acte demain samedi. Est-ce que, d'après vous, Emmanuel Macron est quelque part en campagne ? Philippe Bailly.
Bah écoutez, j'avais pas prévu de venir sur le sujet comme ça, mais par une trivialité. C'est-à-dire, généralement, quand un gamin est passage, enfin a fait des bêtises à l'école, etc., son prof lui dit, bah écoute, tiens-toi tranquille, fais-toi un peu oublier. Et je trouve frappant avec Emmanuel Macron son incapacité à se faire oublier. En fait, il nous a fait le coup de l'écoute, il nous a fait l'écoute du débat, du fait que il allait au contact, comme vous dites, mais pour entendre et pour écouter. Qu'est-ce qui se passe? Il se met en scène, la deuxième acte aujourd'hui, et puis on comprend qu'il y en aura quelques autres ensuite. Il parle pendant des heures. Il met ses 600 maires en face de lui dans un peu dans la position qu'a l'anonyme qui est invité sur un plateau de télé pour interroger un politique. Enfin, en gros, il pose une question et puis après, la parole est rendue aux politiques généralement. Et là, ça augure mal, en tout cas, des conditions du grand débat et de la capacité, en tout cas, du président de la République à se mettre en posture effective d'écoute.
Oui, ça vous plaît pas, on l'entend bien, Isabelle, c'est important.
Non, moi, je vous trouve un peu dur parce que justement, on lui a reproché sa posture jupitérienne. On lui a reproché d'être dans sa tour d'ivoire. Et là, il va au contact. On ne peut pas lui reprocher tout et son contraire. Et par ailleurs, là, moi, je vais faire mon Alain Duhamel qui dit oui, moi, j'ai écouté toute l'après-midi. Et donc, je l'ai beaucoup écouté. Mais non, j'adore Alain Duhamel.
C'est mal.
Mais pas du tout.
Surtout sur RTL.
Mais je veux dire, j'ai écouté les maires. Et je ne suis pas d'accord avec vous. D'abord, il les écoute. Il est forcé de les écouter. Et il s'en prend plein la tronche. Hein, Emmanuel Macron. Ah si, je suis désolée. Et avec des choses concrètes. Moi, là, j'avais fait un bouquin il y a quelques années qui s'appelait Foutez-nous la paix, qui racontait toutes les normes complètement hallucinantes que font les réglementations administratives. Et là, il était face à ça. Il disait, mais voilà, regardez, vous édictez d'en haut des normes administratives complètement ahurissantes qu'on n'arrive pas à mettre en place. Vous avez fait, d'ailleurs, c'est pas lui, c'est Hollande, cette loi pour fusionner les régions. D'ailleurs, c'est quand même un comble, pardonnez-moi cette petite digression, que Hollande mette son gilet jaune alors que la plupart des gilets jaunes sont fous d'orage parce que les services publics reculent, notamment à cause de cette loi de fusion des régions. Et c'est ce que disaient les maires. Ils disaient, écoutez, c'est parfait, donc là, maintenant, on dépend d'une intercommunalité, on n'a plus de prise sur elle, on peut plus distribuer les cartes d'identité. Il y a un moment, ça suffit. Donc moi, je trouve très bien qu'il soit mis dans le bain, je trouve qu'il fait le job, je trouve que pour une fois, il y va, il est au contact, on ne peut pas tout lui reprocher.
Alexandre.
Bah, en fait, moi, ça me rappelle un petit peu cette phrase de Woody Allen qui, dans une conférence de presse, avait lancé les choses en disant « Est-ce que quelqu'un a des questions parce que j'ai des réponses ?»
Et
c'est un peu ça. Non, mais pardon, mais si Emmanuel Macron, après son élection, dans les 6 mois qui avaient suivi son arrivée au pouvoir, avait fait ce grand tour de France, cette rencontre des Français, ou en tout cas des représentants des Français, on aurait crié au génie. On aurait dit ce type a compris qu'il n'a été élu que par 17% des Français. Il est en train de chercher à comprendre, à affiner son projet, à créer une légitimité dans le cœur des gens, à aller chercher de l'information et à bâtir quelque chose qui va pouvoir durer dans la durée et être fort. Et il a fait tout le contraire. Aujourd'hui, pardon, on assiste à un phénomène de pompier pyromane. Pendant 2 ans ou 1 an et demi, ils ont joué à passer en force au lieu de comprendre qu'on fait en marche en force toute une série de réformes qu'il fallait faire sans doute. Hein. Je critique pas la nécessité des réformes qui ont été menées et même leur pertinence sur un certain nombre d'entre elles. Par contre, la méthode était catastrophique. La posture de Macron jupitérien était dramatique par rapport au nouveau monde dans lequel on est parce que ça ne marche pas comme ça. Et le résultat des courses, c'est que le système s'est enflammé. Et maintenant, on a encore toujours un homme au centre qui pense qu'il est la clé de voûte du système et qui va pouvoir tout seul lui résoudre. Si ça marche, tant mieux. Mais j'ai mis aujourd'hui les plus vifs doutes sur le fait que ça puisse marcher encore comme ça.
Yvan Rioufol.
Oui, moi je crois qu'on arrive très vite à un stade d'indigestion. En tout cas, dans ce qui me concerne, ça y est, c'est passé. Je n'en peux plus de voir cette comédie, ce spectacle qui tournait autour de lui-même. Et quand vous disiez qu'il allait au contact, non, il ne va pas au contact. S'il allait au contact, il irait rencontrer les 600 gilets jaunes, ou les gilets jaunes en tout cas, qui veulent l'aborder. Or, les gilets jaunes, il les évite, il évite même de les nommer, c'est-à-dire qu'ils n'existent même pas pour eux, sauf qu'il ne ferait pas ce grand débat-là s'il n'y avait pas eu précisément cette grande révolte de cette France silencieuse qui ne veut pas, toujours pas entendre. Donc il se réfugie auprès des maires qui n'avaient pas voulu entendre non plus il y a 3 mois,
ça, vous avez
quand
raison.
Il n'avait pas été à
l'Association
des maires de France.
On se tape
aujourd'hui des récriminations de maires, c'est quand même très ennuyeux ce qu'on a vu aujourd'hui, à part 2 ou 3 qui sont sortis du lot pour dire en effet, si, il serait bon que vous alliez sur le terrain avant de pondre des lois.
Bien sûr.
Ou Brigitte Barège, la maire de Montauban, qui a posé, en se faisant siffler, le problème de l'immigration, qui est effectivement un problème encore inabordable, surtout dans ces terres ratsoc où ils sont visiblement très conventionnels. Mais c'est d'un ennui mortel, et on voit bien que c'est une opération politique de diversion. On voit bien qu'il est là pour jouer sa survie politique, pour rejouer quelques mois supplémentaires de son quinquennat. Et il est un peu, je pense, donc tu me suis,
Mais je vous trouve sévère, parce que c'est pas
oui,
que
oui,
sa survie.
Je ne suis pas sévère, non.
Mais c'est pas que sa survie. Vie à lui. C'est-à-dire que c'est quoi l'avenir de la France si on ne se réconcilie pas avec nous-mêmes, là ?
Mais pardon, Isabelle,
je suis d'accord.
Je vais remettre une pièce dans la machine avec la méthode qu'a très bien résumé Alexandre, consistant à, pendant 18 mois, à vouloir tout faire sans écouter,
mais
en force,
mais on fait quoi
sans concertation, pardon.
Mais aujourd'hui,
plus rien au gouvernement depuis maintenant la mi-novembre, et ça risque de durer encore, puisque de toute façon, le grand débat va accaparer l'attention, etc. Dans les ministères, ils en sont quasiment à jouer au morpion, parce que il faut bien s'occuper. Non, il ne se passe rien, tout est bloqué. Non, il est arrivé à bloquer le système.
Non, mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'on acte qu'il y a un divorce entre Macron et les Français, qu'il n'a pas à aller les voir, parce que quoi qu'il dise, il va dire une connerie.
Isabelle, c'est que cette mascarade qui, de mon point de vue, est depuis le départ, risque d'attiser encore davantage la défiance qui s'est installée entre Macron et toute une partie de la population. Pas toute la population,
mais
une partie de la population.
Mais on fait quoi, alors ? C'est ce que je vous dis.
Il faudrait d'abord que Macron s'adresse à eux-mêmes et non pas que s'adresser à des intermédiaires.
Mais encore faudrait-il qu'ils soient capables d'avoir des représentants.
Ces intermédiaires, ce sont ceux qui sont les plus respectés, mais enfin, ils restent malgré tout des intermédiaires dans une crise de leur représentation. Il faut mieux aller au direct du public. Or, ce public, il l'évite à chaque fois. Et donc, qu'il fasse au moins cet effort même symbolique de recevoir ne serait-ce qu'une délégation de gilets jaunes. Mais même de ceci, il n'en est pas capable.
Alors, ce qu'on fait, nous, comme le disait Alexandre Malafaï, c'est une page de pub et on revient pour refaire le monde encore et toujours. À tout de suite.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Et toujours Emmanuel Macron à Souillac au milieu des maires. Donc, la prise de parole se prolonge du président. On a bien compris en vous écoutant, Yvorian Folle, Philippe Bailly, Alexandre Malafaï et Isabelle Saporta, qui ne faisaient pas bien les choses, en l'occurrence le président. Isabelle. Je l'entends.
Évidemment, il y a une crise. Après, on peut dire c'est dommage qu'il ait provoqué la crise. Il y a une réalité, il faut faire face. Après tout, il pouvait penser que faire de la politique comme avant, comme Juppé en 95, ça pouvait marcher.
Ah bah, ça n'a pas très bien marché.
Deux, trois leçons. Mais bon, il est là. Donc, il fait face à une situation de crise. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait lui-même le deuil de l'échec de sa méthode. Et donc, il continue, en fait, à répéter la même façon de faire, la même méthode de gouvernance. Alors que, évidemment, quand on est face à une situation comme celle-là, il l'a dit lui-même. Il y a une opportunité, on peut en tirer chance, on peut en tirer profit, mais il faut évidemment accepter de s'y prendre autrement. Je le disais tout à l'heure, ne pas se mettre au centre, mais surtout la question de fond qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce qui ne manque pas, c'est de revenir non pas à des problématiques pratiques, fiscales ou de fiscalité punitive si on remet l'ISF au centre du jeu, mais de se poser la question, est-ce que ce n'est pas le projet national, alors il en parlait un peu dans son début d'intervention tout à l'heure à Souillac, alors que ce n'était pas du tout le sujet, mais tout d'un coup il se dit, est-ce que ce n'est pas un peu sur le projet qu'il faudrait qu'on travaille ? Bien sûr que c'est sur le projet qu'il faut que l'on travaille. C'est quoi la France dans 15 ans ? C'est quoi la France qui nous veut ? Et si on peut arriver à avoir une projection de ça, à ce moment-là, on peut commencer à mettre des mesures.
Mais il n'y est pas du tout.
Précisément, on n'est pas du tout dans ce que vous dites, Alexandre, parce que qu'est-ce qu'on a retenu de la prestation de mardi ? Qu'est-ce qu'on retiendra de celle-là ? On a simplement retenu sa durée et le one-man show.
Personne ne peut regarder ça pendant 20 heures de rang.
C'est diffusé sur toutes les chaînes d'infos. Je ne sais pas le nombre de Français qui se seront cognée, pardonnez-moi l'expression, de suivre ça toute cette après-midi, c'est groupusculaire. Ils vont le dire tout à l'heure, c'est pas en plus un spectacle de follement amusant, ni même
mais
follement
faut,
intéressant.
Donc encore une fois, les choses.
Pour démarrer
comme
un débat,
ça, Isabelle.
C'est le président jupitérien se met en scène, il postule pour une place dans
il
le Guinness Book des records de
la
plus longue intervention, mais on ne retient rien du fond.
Non, mais
il y a
pas
une thématique.
D'abord, je voudrais.
Alors, la défense quand même de Mille, je n'ai pas encore parlé.
Non, il ne descend pas dans l'arène. Du moins, oui, il fait du théâtre, il descend dans l'arène avec un public choisi. Parce que vous aurez remarqué également que tous les maires qui étaient là étaient des maires qui, très globalement, étaient très dociles. D'abord, il a été applaudi, ils ont sifflé cette femme quand elle a commencé à faire un peu de politiquement incorrect. Et j'ai lu qu'il y a un maire dans ce département, dans cette région, qui est Front National, le maire de Beaucaire, je crois, qui n'a pas été invité.
Ils n'ont pas tous été sympas avec d'accord. lui cet après-midi. Hein, quand même.
Globalement, si. Enfin, pour ce que j'en ai vu.
Ils s'en est pris, globalement, s'en est pris plein
si.
La tête.
Or, ce mouvement est un mouvement populiste qui est singulièrement, qui se reconnaît en plus assez majoritairement dans le Front National, et de ne pas vouloir inviter un maire qui pourrait représenter une partie précisément de cette voix-là, même si c'est une voix qui dérange, ça fait partie quand même d'une sorte de trucage de ce qui pourrait être, en effet, une démarche très intéressante, parce qu'elle est dans la continuité, dans le fond, de En Marche. C'est-à-dire que là aussi, c'est une société société civile qui voudrait s'exprimer, celle des Gilets jaunes, comme s'était exprimée celle de la société En Marche, avec l'Internet, etc., d'une manière horizontale et tout. Sauf que l'on voit bien qu'il ne peut pas aller au bout de sa logique, qui conduirait naturellement, normalement, à enfiler un Gilet jaune, mais il ne peut pas le faire, parce que s'il allait au bout de ce qu'allaient dire les Gilets jaunes, il l'obligerait à changer totalement sa politique. Sa politique est naturellement en opposition totale avec ce que pense, en tout cas, une partie de cette France oubliée-là.
Isabelle.
Bon, moi, permettez-moi de faire un pas de côté. C'est-à-dire qu'avec la révision de la Constitution, avec ce quinquennat, et avec effectivement le fait que les législatives sont juste après le quinquennat, aujourd'hui, le Premier ministre, le super Premier ministre de la France, c'est le Président de la République. Hein. Donc là, vous dites, au fond, il se met en scène. Aujourd'hui, il n'y a que lui qui puisse se mettre en scène. Il n'y a que lui qui puisse aller au contact des Français. Donc il n'a pas d'autre choix. Excusez-moi. Hein, je ne vous ai pas coupé. Pour le coup, laissez-moi finir.
Se mettre en scène, c'est très bien. Ce n'est pas ça ce que je conteste.
C'est pas le problème de se mettre en scène, c'est que c'est le seul à pouvoir aller au feu. Donc il y va. On peut pas lui reprocher. Maintenant, si vous voulez, ce qu'il faut faire, c'est effectivement réconcilier la France avec elle-même. J'espère que ce grand débat y arrivera. Et par ailleurs, excusez-moi, mais il faut une réforme constitutionnelle. Parce que si on veut que cette cinquième ressemble un peu à son pays, il faudra effectivement que le Premier ministre ait un rôle de chef de la majorité. Il faudra un peu de proportionnel pour que la majorité soit autre chose qu'une majorité Godillot. Mais d'accord, mais ça doit normalement sortir de ce grand débat national.
Oui,
et j'espère que ça
évoluera. La République pour ça. Ça fera sortir.
Vous êtes un peu comme le président de la République, Isabelle. Mais vous avez une conclusion avant même que le débat.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faudra.
Non, mais ne dites
ça,
pas encore une fois, Isabelle. Je suis d'accord pour dire que le président doit s'impliquer, mais il ne va pas au feu. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il ne va pas au feu. Il s'abrite.
Attendez, les Gilets jaunes sont pas capables de trouver eux-mêmes.
Il se met en scène. Il essaie de valoriser sa propre politique. Or, c'est pas ce qu'on lui demande.
Il décapite les représentants qu'il pourrait avoir à chaque fois qu'il y en a un qui est maire.
Vous voyez bien qu'il a lui-même lancé les sujets. Il cherche à avoir la tutelle sur un mouvement qui est précisément un mouvement qui voudrait se séparer de cette tutelle de l'exécutif.
Donc, il veut réconcilier la France avec elle-même. Mais moi, je veux que ça marche.
Non, il veut réconcilier la France avec lui, c'est différent.
Yvan Rioufol, Philippe Bailly, Alexandre Malafaye et Isabelle Saporté.
Comprenez-moi, je vous ai compris, c'est compris.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Et ce soir, Isabelle Saporté, Alexandre Malafaye, Philippe Bailly et Yvan Rioufol. Évidemment, beaucoup de débats et une grosse ambiance. On va s'arrêter sur une autre épine pour l'exécutif. C'est le cas Alexandre Benalla, qui a donc été présenté aujourd'hui à un juge d'instruction. Il devrait être dans la soirée. Mise en examen une nouvelle fois. C'est une histoire, une nouvelle fois, de passeport diplomatique avec un soupçon de faux en écriture. C'est une histoire à rallonge. La question est de savoir s'il sera libéré ce soir à l'issue de cette mise en examen et s'il pourra être entendu comme prévu lundi après-midi par les sénateurs. Est-ce que cette affaire-là, elle va s'arrêter un jour ou pas? Est-ce que c'est une vraie épine pour Emmanuel Macron, une de plus? Alexandre.
C'est un poison lent. C'est un poison lent parce que ça diffuse et puis parce qu'avec le temps, la justice va quand même passer. On voit qu'elle a eu du mal à passer. Rappelez-vous, pendant le démarrage de l'affaire, il y a eu quelques perquisitions qui n'ont pas pu se dérouler comme on aurait aimé qu'elles se déroulent. Il y a eu quelques obstructions, quand même, semble-t-il, en tout cas, des choses qu'on pourrait penser comme étant des obstructions. Voilà, mais malgré tout, la mécanique est en route et vraisemblablement, on va révéler des informations qui vont être sans doute désagréables à un moment ou à un autre. Moi, je m'interroge juste une question. Comment M. Benalla a-t-il financé tous ses voyages en Afrique? Il en a fait combien, 15, 18, 20 en l'espace de quelques mois, même en seconde, si je puis dire, tous ces billets.
Imaginez qu'il était invité. Ouais.
Ah, ben bah voilà, conseillé. Voilà, mais ok, très bien. Mais donc, ça mériterait, de toute façon,
à ce stade. Je comprends, mais il a une fonction de conseil. Aujourd'hui.
À ce stade, on a besoin d'y voir un peu plus clair.
Le fond du problème n'est pas ça.
Le fond du problème, il est, de mon point de vue, on en revient à Emmanuel Macron, à un problématique d'exemplarité. Quand on confie des responsabilités aussi écrasantes à un jeune qu'on place dans son premier cercle, à la limite, pourquoi pas ? Il y a peut-être des raisons qui sont liées à la volonté de cloisonner des parties de sa vie pour des raisons qu'il regarde, et très bien, et bravo. Moi, tant qu'il fait le job, globalement, je n'ai pas d'état d'âme sur le fait que, voilà, il faut organiser dans un monde transparent sa vie. Et ça, ça ne pose aucun souci. Mais ce qui me pose souci, c'est que quand le garçon à qui vous avez...
Qu'est-ce que vous voulez dire par ça, en fait ?
Je veux dire par là que, dans un monde transparent, vous avez besoin de pouvoir vous protéger un petit peu. Et qu'avoir quelqu'un de confiance qui peut vous permettre d'organiser votre vie privée, vos sorties, sans forcément que tout fuite, ça peut se comprendre, parce que c'est vrai que c'est un monde impitoyable, on ne veut aucun cadeau. Mais pour autant, quand vous confiez toutes ces responsabilités à un jeune qui n'est pas à la hauteur des responsabilités que vous lui confiez, alors qu'il a une chance unique, enfin le job de Benalla, tout le monde en aurait rêvé, eh bien le jour où il dérape, vous le foudroyez. Voilà. Et là, vous faites un exemple et vous vous comportez comme un chef à la hauteur de la fonction. Il ne l'a pas fait, et depuis, c'est chaotique, on a vu des gens mentir, sous serment, et c'est vrai que c'est très problématique. Et donc cette affaire, je dirais, c'est un poison lent, et malheureusement pour l'exécutif, elle va continuer à entraver la restauration de l'image d'Emmanuel Macron dans l'opinion. Or, on a besoin justement d'avoir un chef en qui on a confiance, et tout ça altère le sentiment de confiance que l'on n'a pas aujourd'hui.
Philippe Bailly.
Ouais, là aussi, pour prolonger sur ce que dit Alexandre, là encore, ce que ça nous dit de Benalla, c'est que c'est une petite frappe, mais d'une certaine manière, ça n'a aucun intérêt. Et la justice finira par passer sur lui, mais encore une fois, on l'aura tous oublié dans l'intervalle. Ce que ça dit aussi de Macron, c'est quand même une des limites dans sa capacité à évaluer les gens. Benalla l'a suivi pendant toute la campagne, a été même manifestement dans son équipe rapprochée, etc. Il est allé à l'Élysée ensuite. Il l'accompagne en vacances, machin. Enfin, mais comment se fait-il qu'il à aucun moment il n'ait senti la patte humaine de Benalla ? Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose. Si c'était du théâtre et si on parlait d'amour, ça nous ferait rire, on dirait que c'est un vaudeville. Mais ce que ça révèle du fonctionnement du ministère de l'Intérieur, de l'Élysée, des Affaires étrangères, en termes de gestion quand même de choses aussi anecdotiques que des téléphones cryptés de défense, des passeports diplomatiques, des passeports de service, c'est le côté plus systémique et plus effrayant.
Effrayant ou pas, Yvan Rioufol ?
Oui, effrayant, parce que la manière dont il gère l'Élysée, enfin l'entourage de l'Élysée, pourrait ressembler à la manière dont il gère également la France. C'est-à-dire que le manque de discernement qu'il a fait voir en embauchant, s'entourant de ce personnage très sulfureux, et le manque de discernement qu'il fait voir pour les Gilets jaunes, me semble être une faille très personnelle à lui. Enfin, donc, ce parallèle, naturellement, est un peu osé, mais je pense que si cette affaire prend cette envergure politique, c'est parce qu'elle révèle, dans le fond, l'amateurisme de ce président de la République qui, en plus, a laissé passer auprès de ses plus proches cette culture un peu de l'arrogance, de la morgue, de la subversion... De la transgression. Et quand on voit Benalla, en effet, se foutre carrément du Sénat, mentir au Sénat, etc., on se dit que peut-être qu'il l'esclave imitait le maître, si je puis dire. Et d'ailleurs, entre parenthèses, heureusement que le Sénat était là, parce que si le Sénat n'avait pas été vigilant et n'avait pas fonctionné comme il devait fonctionner, c'est-à-dire comme un contre-pouvoir, jamais cette affaire ne serait sortie et jamais il n'y aurait eu en plus ce rebondissement. Or, le Sénat, c'est
C'est le monde qui a sorti le sujet.
Oui, c'est le monde qui l'a sorti, mais c'est le Sénat ensuite qui a diligenté une enquête parlementaire qui avait été refusée par l'Assemblée nationale. Et donc c'est le Sénat qui est dans le collimateur aujourd'hui, comme par hasard, d'ailleurs, de Macron, qui propose la réforme, cette réforme précisément aux Gilets jaunes, au prétexte que les Gilets jaunes le demandent.
Allez, SOS, ça porte.
Alors, j'aurais jamais pensé devenir effectivement la macronienne de service ce soir. Ça m'étonne moi-même un petit peu. Mais je dois dire que si vous voulez. Vous avez tout à fait raison sur le fait que le premier cercle de Macron n'a, entre guillemets, pas su le protéger, a été d'une médiocrité confondante dans cette histoire Benalla, qu'effectivement, il fallait débrancher Benalla dès le départ et certainement pas faire traîner cette affaire. Maintenant, Benalla, je pense que chaque président de la République a eu son Benalla. C'est-à-dire qu'au fond, tous les hommes politiques de cette envergure sont entourés de barbouzes. On a un barbouze qu'il aurait fallu effectivement être débranché comme un barbouze. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en train de s'étonner qu'un barbouze se comporte comme un barbouze. Moi,
mais
ça ne m'étonne
pas. Hein,
mais je suis désolée. Non, mais c'est ça. Au fond, ça n'est que ça.
Vous oubliez toute
la barbouze, déjà, ça ne se fait pas prendre.
Mais bien sûr que si, ça se fait prendre aussi, mais ça se fait débrancher.
La moralisatrice et vertueuse qui avait accompagné l'élection de Macron, c'était Macron arrivé.
Vous avez raison.
La morale.
Non, mais là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'effectivement. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a.
Je suis d'accord avec vous pour dire que l'affaire en elle-même n'est pas très.
Elle est sans intérêt, cette affaire. À partir du moment.
On a les affaires qu'on mérite. Là, ils tombent sur des petites affaires médiocres, parce que malgré tout, la médiocrité est un peu partout, je trouve, dans cette manière de conduire.
Je pense que, si vous voulez, elle a pris une dimension qui était complètement hallucinante, parce qu'elle a été très mal gérée par l'entourage de Macron, qui n'a pas été soutenu, effectivement, à ce moment-là. Comme en plus, lui, il était dans sa posture jupitérienne cet été en disant cette affaire est sans intérêt, ça n'intéresse pas les Français et qu'il n'a pas été capable d'y répondre, ça a effectivement laissé perdurer cette affaire. Maintenant, là encore, vous avez raison, Yvan Rioufol, c'est que tu te fais élire sur une posture hyper moralisatrice en disant je serai irréprochable, tu dois l'être. Et donc, le débrancher dès le départ.
On refait le monde de la suite, c'est dans un instant. Restez bien avec nous.
RTL Soir jusqu'à 20h, on refait le monde.
Stéphane Carpentier.
Il nous reste 5 minutes, Isabelle Saporta, Alexandre Malafaye, Philippe Baillé, Yvan Rioufol ce soir pour aborder l'actualité. Je voudrais qu'on s'arrête sur un cri d'alarme, le cri d'alarme de 14 chefs de services hospitaliers, c'est dans le journal Le Monde. Après notamment le drame des urgences de Lariboisière, ils réclament un grand plan en faveur des urgences, car le risque d'accident devient immense, je cite, et plaide pour un objectif zéro brancard aujourd'hui. D'abord, à qui la faute, d'après vous? Pourquoi on en est arrivé là?
C'est vrai que ce qui est hallucinant dans ce cri d'alarme, c'est qu'on voit bien que les urgences qui étaient d'abord censées s'occuper que des grands accidentés de la route, aujourd'hui sont en fait le déversoir de toute la peine de la France. C'est-à-dire que des personnes qui sont sans abri, aux personnes qui sont dans la rue, aux personnes qui sont avec un tout petit bobo, moi je vois bien, même nous aujourd'hui il n'y a plus de pédiatre pour les enfants le soir, donc t'as un parent d'un premier enfant qui est en panique parce que le gamin est à 42 fièvres, il va aux urgences, tout le monde va aux urgences. Et c'est vrai qu'on leur demande aujourd'hui de réagir, d'être capable de trier en un instant record quels sont les vrais malades, de quelle est la bobologie. Et on arrive à quelque chose de très angoissant. Maintenant, vous voyez avec le SAMU ce qui s'était passé la dernière fois, avec cette jeune femme qui était soi-disant trop jeune pour être hospitalisée, ça ne pouvait pas être ça, elle est morte. Donc moi, je pense que tout ça est très compliqué et qu'il faudra surtout mettre beaucoup de moyens plutôt que ce tri, parce que je les ai vus réclamer un tri, mais un tri supplémentaire, un tri par qui ?
Alexandre,
moi, c'est très très difficile parce que le sujet, d'ailleurs, on l'avait abordé chez vous il y a quelques semaines. On voit bien qu'il y a un problème d'abord d'opacité sur la réalité de la situation. Quelles sont les conséquences réelles des fautes commises lors du passage aux urgences? Et il y a des chiffres qui sortent qui sont plus ou moins fiables. On parle de dizaines de milliers de cas, etc. Bon, très difficile. Mais je me souviens de ce débat qui avait été. Moi, j'avais pointé à la fois un problème de risque d'erreur qui était commis par les urgences, avec des problèmes parfois de compétences ou qui peuvent être liées à l'inexpérience. Et sur les réseaux sociaux, c'était très intéressant. J'avais été bien ciblé par une partie du corps médical qui avait dit « Mais comment vous pointez la compétence, etc. Mais venez donc avec nous. » C'est vrai, comme ils sont saturés. Mais oui, il y a des fautes professionnelles qui sont commises. Et il y a un tweet d'un des médecins urgentistes qui a réagi en disant que celui qui n'a jamais signé un acte de décès lié à une faute médicale lève la main. Et je pense que malheureusement, il y a un problème de réalité qu'on ne veut pas prendre en phase dans nos urgences, parce que là encore, on ne s'est pas posé des problèmes en France, on attend que ce soit la crise grave pour s'en préoccuper, et cette réalité-là, tant qu'on ne la regardera pas en face, on continuera à avoir des appels, des cris d'alarme, et puis des gens pour qui il arrive des situations malheureusement très graves, parce qu'il y a des fautes professionnelles qui sont commises.
Le tour de table continue, Philippe Baillé.
Je trouve que le papier est extrêmement intéressant, justement, dans le diagnostic qui porte sur comment on en arrive à cette crise, à cet engorgement des urgences, effectivement, les médecins de ville qui ne reçoivent plus le soir, les maisons de retraite qui éventuellement quand ils ont pu venir envoient aux urgences, les personnes mourantes qu'on envoie mourir aux urgences, etc. Enfin bref, le papier mérite d'être lu, ne serait-ce que pour ça. Je vous rejoins, Isabelle, comme quoi, sur le fait que les idées de sélection, enfin sur le vol en proposition, y compris dans lequel il dit il faudrait que en gros il y ait des urgences spécialisées pour enfin gériatrie et extrême onction, certains spécialisés pour les personnes, enfin à la fin on reconstruit l'hôpital. Exactement. autour de des urgences, ce qui me paraît quand même pas être l'objectif. Donc simplement à court terme, il faut certainement des moyens.
Oui.
Mais plus je trouve que ce sont les questions du début du papier qui méritent d'être reprises et pensées dans la face, les remèdes qu'on peut leur apporter, encore une une fois, sur tout ce qu'on envoie aujourd'hui vers les urgences, bien alors sûr. Qu'on ne devrait pas le faire.
Yvan Rioufol, rapidement.
Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Enfin, quiconque a fait l'expérience des urgences a pu constater l'engorgement, cette cour des miracles, cette manière dont tous les gens viennent, en effet, parce qu'ils n'ont pas où aller ailleurs, ils n'ont pas de médecin, ils n'ont pas... Enfin, ça a été dit. Et moi, j'ai lu ce papier avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de respect, parce que je n'ai pas de qualification pour avoir un avis plus personnel. Et je trouve que c'est au contraire que cette solution de faire des sélections par des appels préalables et afin de décrire déjà quel est le problème qui préoccupe ceux qui viennent, parce qu'il y en a qui viennent, c'est vrai, pour des bobos, ça peut peut-être attendre le lendemain, etc. Je trouve que c'est une solution assez bonne, mais maintenant, je suis prêt à être convaincu du contraire si on me l'explique, mais pour l'instant, je trouve que ces spécialistes-là m'ont convaincu du fait qu'il fallait quand même maintenant mettre des barrières, c'est pas des interdits, mais des barrières afin de désengorger ce service qui ne peut pas naturellement répondre à toute la misère du monde, si je puis dire.
Le fameux tri dont parlait Isabelle Saporta tout à l'heure.
Oui, mais c'est vrai que, si vous voulez, aujourd'hui, le tri, on le donne à qui ? On le donne à des médecins, alors ? Oui, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, ce que dit le papier, c'est qu'au fond...
On va retomber sur l'histoire du SAMU de Strasbourg.
Hein. C'est ça le problème. Voilà, moi, c'est ça qui m'angoisse.
Oui, mais en même temps, là, vous avez vu, il y a une femme qui avait été oubliée sur un brancard et qui est décédée, parce que dans tout ce bordel des urgences, maintenant, on ne voit plus les gens qui souffrent, et c'est ça, c'est parti de là, j'imagine.
C'est très gilet jaune, finalement, les urgences, vous voyez ?
Point final pour ce soir.
C'est la vie du rail, oui.
Yvan Rioufol, Philippe Bailly, Alexandre Malafaye et Isabelle Saporta, on refait le monde ce soir. Ça reviendra évidemment lundi avec Marc-Olivier Fogiel à partir de 19h15. Dans un instant, c'est le football en direct. À tout de suite.